Et les Baskounans sont près de notre cœur, près de cette assemblée. Entre autres, on était conduits dans la louange ce matin par Claudia, qui était là en train de jouer du piano. Et donc, on est attachés à eux. Ce sont probablement les missionnaires long terme qui ont été le plus près ici à travers les années. Les Francis ont été près de nous, évidemment, Hugo, avec l'implantation à Rivière-du-Loup. Mais moi, j'ai vu, et eux m'ont vu, et ils connaissent l'Église. Il y a des gens dans l'Église ici pour qui Antonio et Hélène sont des grands frères, des grandes sœurs spirituelles, à qui on est vraiment attachés. Et j'aimerais simplement dire, je connais les Baskounans, je connais Antonio et Hélène pour leur attachement à la parole de Dieu. Je connais leur attachement à l'Évangile. Je connais Antonio et Hélène comme des gens qui sont des gens... qui aiment les personnes, qui s'attachent aux personnes. Mais ce que je voudrais mentionner ce matin, c'est leur passion indéfectible à travers les années, à travers des moments très difficiles parfois, des déserts dans leur ministère. J'ai connu Antonio retourner faire de la mécanique pour pouvoir se soutenir financièrement, tout ça. Mais leur attachement au royaume de Dieu, leur vision que nous sommes des pèlerins ici sur la terre, on se prépare à aller au ciel, et chaque minute qu'on peut consumer à faire avancer le royaume de Dieu, en gagnant des âmes, en implantant des églises, c'est ce que moi je retiens de votre vie jusqu'à présent. Et ça, ça me touche et ça, ça m'édifie. Alors, je vous invite à venir faire une présentation missionnaire et nous conduire dans la parole.
Bonjour à tous. Je suis plugué ou pas? Il vient de me mettre une bombe ici pour qu'en 45 minutes, ça saute. Non, c'est pas ça. C'est pour le faire du bien au frère qui ne comprend pas bien. Il est un petit peu affecté ses oreilles, alors. Une chance, hein? Bon, je ne vous vois pas. Vous êtes beau ce matin. Merveilleux, merveilleux. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais Yannick a donné un petit aperçu de notre vie, de notre ministère, un petit aperçu de ce que nous sommes. Hélène, Antonio, à votre service, et au service du Seigneur. Ça fait déjà 5 ans qu'on est au Chili. Il est temps qu'on m'a passé vite. Et qu'il a passé vite. Je rends grâce à Dieu qu'il nous reste encore des forces. Et le Seigneur nous donne la vie. Je viens de retenir 3 choses ou 4 du vidéo que vient de voir de la partie de Terry. Terry, c'est mon coach personnel. Quand ça va mal, là, je l'appelle puis on arrange les affaires. C'est un gars qui a beaucoup de courage. Lui, il a les 2 pieds sur la terre et aussi a volé très haut dans les airs parce que lui était pilote d'avion de guerre avant d'être un pasteur puis un serviteur de Dieu. Et cela m'encourage, parce que s'il m'enseignait qu'il ne faut pas voler trop, il faut garder les 2 pieds sur la terre pour comprendre ce Dieu très haut. Alors, Terry, c'est notre coach, il était là-bas en visite aussi au Chili, et on venait juste d'arriver, je ne savais plus mettre la tasse de thé, on n'avait même pas une table, on venait juste de commencer à établir notre maison, ce qui est devenu plus tard la maison missionnaire qui recevait les gens qui se convertissaient. Puis c'est agréablement bon de voir la main de Dieu agir dans la vie des gens. Savez-vous, quand on parle d'Antonio et Hélène, on se place en 12e place, puis on laisse le Seigneur en avant nous, parce que c'est lui qui fait l'œuvre du ministère. Tout ce que nous savons faire, c'est de plier nos genoux, de plier nos cœurs devant le Seigneur, de nous rendre devant lui, d'invoquer son nom, et c'est lui qui fait le travail. Tout ce que nous savons faire, c'est de parler, tel que la Bible nous enseigne, en temps favorable ou non, parle. Il faut parler. Si on ne dit pas, personne ne va savoir. Puis le Seigneur fait l'œuvre par son esprit et par sa parole. Frère bien-aimé, un petit groupe qui a commencé avec Hélène, Antonio, mon bras droit, Roman, et sa femme, Marcella, et sa belle-sœur, Roman, sa sœur, Marcella. 5 personnes ont commencé à prier dans ce salon, chez nous, qui est devenu le temple de l'église baptiste là-bas à San Felipe, au Chili, de l'autre côté de la terre, est aujourd'hui une église qui compte autour de 50 personnes. Puis ça continue à grandir. Mais le problème, c'est que nous n'avons plus d'espace chez nous. Alors on a commencé à prier pour un édifice, pour bâtir quelque chose. Moi, je ne suis pas de ceux qui aiment ça, jeter l'argent par la fenêtre. Je ne veux pas louer là-bas parce que c'est trop cher. Je ne veux pas non plus aller amener l'église dans une école, parce que les écoles là-bas sont catholiques tous. Il y a plein de statues partout. Et je vais aller les mélanger plus qu'autre chose. Là. Alors, j'ai lancé le défi à l'église de bâtir. Ils m'ont regardé avec un regard de... Avec quoi? Je dis, c'est possible, avec Dieu tout est possible. Puis le Seigneur nous a montré sa grâce, sa miséricorde, sa bonté. Et aujourd'hui, le terrain est déjà payé. On a vu un terrain en ville et le terrain est déjà financé. Imaginez-vous. Alors, il manque l'argent pour bâtir. Encore une fois, je me dis, le Seigneur est grand. Le Seigneur l'a dit au prophète Jérémie, il y a quelque chose d'impossible pour moi. Et je me dis la même chose. Et je réalise qu'il n'y a rien d'impossible pour le Seigneur. Je vois l'œuvre du Québec, ici au Québec, comment est-ce qu'il avance, comment est-ce qu'il grandit. Et j'étais allé la première fois voir Hugo Étier dans un petit local où on s'enfarchait dans tout l'eau. Puis il était tout serré là avec ces gens. Puis aujourd'hui, il y a un gros bâtiment. Le hall d'entrée est plus grand que la salle qu'il y avait avant. C'est pas beau ça? Dieu n'arrêtera jamais de nous étonner. Amen. Et le Seigneur de la grâce, de la miséricorde, le Seigneur de notre salut, est en train d'agir encore au Chili, de l'autre côté du monde. C'est le même Dieu, c'est le même Jésus, c'est la même parole, c'est la même œuvre du ministère. Passion, action, édification, c'est tous ces mots en ion qui sont dans mon cœur. OK? Mission. Combien c'est important ça, de garder ces mots présents, toujours présents dans notre pensée en tant que serviteur des yeux, en tant qu'enfant des yeux. Frère bien-aimé, la mission, notre bureau missionnaire de notre association, Fellowship International, ils nous ont offert un prêt, la moitié presque de l'argent pour bâtir, sans intérêt. Qui prête l'argent sans intérêt aujourd'hui? Mais la mission à l'étranger, il le fait. Il nous reste à financer l'autre moitié, mais je ne m'en fais pas. Le Seigneur va pourvoir de façon miraculeuse. J'en suis certain. Personne ne me dit le contraire. Celui qui dit le contraire, qui lève la main. On parlera vrai. Notre Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu grand, est un Dieu magnifique, est un Dieu qui n'arrêtera jamais de nous étonner. C'est ça qu'il lui a fait avec nous. Savez-vous, notre travail là-bas, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la formation des disciples, formation de leadership. On prépare un pasteur déjà pour l'église, parce que je ne suis pas appelé à être pasteur là-bas, je suis appelé à être un implanteur avec ma femme, implanteur d'église. On regarde déjà une autre ville pour aller planter une autre église, tout proche là. Et cela, c'est bon. On a une église mère qui soutient la vision aussi avec nous. Les pasteurs de cette église-là, ils étaient ici, ça ne fait pas longtemps. Jaime Solano, vous l'avez connu quelques-uns, n'est-ce pas? Et ces pasteurs-là, là, mes amis, il faut qu'il les fasse des jambettes pour qu'ils aillent pas trop vite. Là. Parce que lui, c'est un gars biblique. Lui, il ne fait rien qui n'est pas écrit dans la parole des yeux. Toujours quand j'arrive avec une planification, je me dis, qu'est-ce que la parole dit sur ça? Et j'aime ça. Parce que je suis un gars speedé. Puis lui est un gars calme. C'est un gars qui me fait réfléchir. C'est lui qui met le baume dans toutes les planifications. Et l'église, même l'église mère là-bas, y a porté 10 000 $ pour l'achat du terrain. Alors, le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses au Chili. Au-delà de nos pensées, avant qu'on pousse la porte, lui l'ouvre en dedans, on passe tout droit. Le Seigneur, il va en avant de nous, toujours en train d'ouvrir des portes, de préparer les solutions, de préparer les champs pour qu'on puisse travailler. Frères bien-aimés, notre travail, formation des disciples, implantation d'églises, évangélisation et aussi consolider la mission, pour planter là une ouvrière qui va être à temps plein, soutenue par son église, et nous autres, on décampe, on va plus loin. C'est ça notre travail. Alors, Hélène, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je parle trop, je ne te laisse pas parler.
Il a tout dit. Es-tu correct? Oui. Alors, je vous transmets mes salutations. Moi, je vais être brève.
Merci. OK.
Alors, je vous transmets les salutations de l'Église de San Felipe. Un implanteur d'Église est là pour quelque temps. Puis, c'est vrai, on s'attache aux personnes. Il y en a des fois, quand on se préparait à s'en venir chez nous, ils nous disaient, est-ce que vous avez hâte de partir? Non. On a hâte d'être là-bas. On n'a pas hâte d'être partir. Puis la semaine dernière, il y a quelqu'un ici qui dit, avez-vous hâte de partir? Non, on n'a pas hâte de partir. On a hâte d'être là-bas, mais on n'a pas hâte de quitter. Alors, c'est vraiment ça, c'est la partie la plus difficile de la mission à l'extérieur, c'est de quitter. Alors, je vous transmets leurs salutations. Ils grandissent, puis en réalité, nous, on est vos mains, vos pieds, votre cœur là-bas. Puis ils le voient comme ça. Alors, nous, on est appelés à être à San Felipe pour un temps limité. On a 5 ans de fête, l'Église a 4 ans, parce que la première année, 6 mois étaient pour s'acclimater à l'Église mère. Et après ça, les 6 mois étaient pour préparer la maison qui était vraiment en ruine. Antonio en a glissé un mot, pour remettre la maison potable, pour pouvoir vivre dedans et accueillir l'Église chez nous. Mon mari disait les verbes au passé, mais l'Église est encore dans notre maison. Vous allez le voir tout à l'heure, on a une petite vidéo qu'on va vous montrer. Alors, on est vraiment à un point où on doit construire, on attend le permis de construction. Puis, c'est vraiment un beau défi de voir les personnes s'attacher à la parole de Dieu. Le contexte du Chili est différent du Québec. Beaucoup de personnes se disent évangéliques, mais ne comprennent pas l'Évangile, ne sont pas sauvées, beaucoup d'entre eux. Les églises, plusieurs églises sont devenues plus... C'est comme la religion évangélique. C'est vraiment dommage. Puis on a quelques personnes qui viennent de ces milieux-là et qui maintenant sont en train d'apprendre la parole de Dieu. Ça faisait 15, 20 ans pour quelques-uns qui étaient là-dedans puis qui n'avaient jamais compris le salut. Puis ils s'attachent à la parole de Dieu. Puis ça, c'est notre joie la plus grande. De pouvoir les voir faire ça. Alors, quand vous priez pour nous, priez pour ces personnes-là, on voit vraiment des miracles dans les vies, puis ça nous réchauffe le cœur. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose avant la présentation.
Non, je le dirai après.
Oui. Alors, moi, je vous laisse ici. Alors, peut-être on peut partir la présentation.
On va laisser les images nous parler un petit peu. Une image vaut 1000 mots. Là, on l'a eu, hein? Excellent.
Tu es descendu pour prier et méditer la nuit. L'angoisse te saisit, une profonde tristesse t'envahit. Oh Père, épargne-moi. Dans ce jardin, tu seras trahi par un ami qui pourtant te suit. Face contre terre, les larmes coulent sur tes joues. Percer ton corps, une couronne d'épines et un signe sur la croix. Oh Jésus, tu es le Fils de Dieu. Sur le bois, tu as laissé ta vie pour nous racheter de tout péché. Et ressuscité, assis à droite du Père. Oh Jésus, tu veilles sur ton Église. Oh, 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 je t'en prie,
je t'en prie.
C'est ça. Alors, on profite de l'opportunité encore une fois pour insister en disant merci. Merci de votre soutien. Normalement, on vient au Canada pour 6 mois, mais cette fois-ci, on l'a réduit à 3 mois et demi parce qu'on a trop d'ouvrages là-bas qui nous attendent. On ne peut pas rester plus de temps que ça. La construction s'en vient. Puis, il faut qu'on soit là pour administrer tout ça. Et je peux vous dire que les gens là-bas aussi sont reconnaissants de ce que le Canada tout entier fait pour l'œuvre du ministère là-bas au Chili. Aussi, à mode de vous encourager, je voudrais vous dire que l'Église à San Felipe, ils soutiennent déjà 2 missionnaires à l'intérieur du pays. Et il y a un missionnaire qui est complètement au bout du Chili, proche de l'Antarctique. Puis on les soutient avec beaucoup d'efforts, mais c'est admirable ce que le Seigneur est en train de faire avec lui là-bas. Puis l'Église s'est encouragée de le faire. Et les enfants, ils ramassent les sous pour l'offrande missionnaire. Puis c'est vraiment une dynamique formidable. Savez-vous, il y a beaucoup d'églises qui nous soutiennent ici au Canada. Mais le plus grand nombre d'églises qui nous soutiennent ici au Canada, le soutien vient du Québec. Et c'est merveilleux. Au début de notre ministère, c'était l'église de l'Ontario qui nous soutenait le plus fort. Puis peu à peu, c'est l'église du Québec qui a pris la place. Puis je me rends compte que l'église ici au Québec commence un état de maturité. C'est formidable de voir la main de Dieu agir ici au Québec. Sans plus tarder, ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. On va faire face à un texte très connu de vous autres et qui nous parle des choses très importantes pour notre vie chrétienne. Marc 10, verset 46. Marc 10, 46. La parole de Dieu dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, il se leva d'un bond, vint vers Jésus. Prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, elle recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Père céleste, que cette parole puisse pénétrer nos pensées, nos vies, et qu'on puisse, Seigneur, prendre conscience de la tâche que Jésus avait accomplie sur la terre et de la tâche que nous avons accomplie ici en étant tes disciples. Que ton nom soit loué, bénis-nous à travers cette portion de la parole, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Très bien, nous avons ici un passage assez simple à comprendre, mais qui contient, à mon goût, trois vérités profondes. Ici, il y a une opportunité pour Jésus-Christ, une opportunité pour l'aveugle et une opportunité pour les disciples du Seigneur. Il passait par Jéricho, il s'en allait vers Jérusalem, il ne reviendrait plus sur Jéricho. Lui s'en allait vers sa mort à la croix. Et imaginez-vous la raison pour laquelle cet aveugle lui criait de même. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le monde qui était autour de Jésus, surtout ceux qui étaient en avant, il faisait taire. Ferme-la. Ferme ta bouche, là. Le Seigneur est trop occupé, là, pour t'occuper de toi. Ben, celui qui criait, c'est un monsieur rien, là. Quelqu'un qui quittait l'argent, là. Un aveugle. Il n'avait aucune rang dans sa vie. À part que le monde les connaissait, à Bartimée, parce qu'il était toujours là, assis au bord du chemin. Mais lui criait plus fort. Plus le monde le faisait taire, plus il criait. Il criait plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il ne le voyait pas, là. Mais entendait très bien ce que la foule disait de lui. Ferme ta bouche. Arrête de crier comme un fou, là. Le Seigneur est trop occupé pour s'occuper de toi. Je suis convaincu dans mon cœur que c'était les disciples qui lui disaient ça. Parce que les disciples, en quelque sorte, là, ils se croyaient assez importants autour de Jésus. Là. Ils se croyaient leur garde-corps de Jésus. Là. C'est ça que Pierre a démontré quand ils sont allés chercher le Seigneur pour l'emprisonner. Hein? Ils sont allés jusqu'au jardin. Puis Pierre a sorti une épée. Puis il ne voulait pas couper une oreille. Mais il voulait aller au centre de la tête, là. Si le pauvre gars, il ne bouge pas, il le coupe la tête en plein milieu, là, c'est. Le Seigneur lui a dit, non, 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 c'est comme ça. C'est pas comme ça, Pierre. C'est pas avec l'épée, puis avec des armées, là, c'est avec mon esprit. Avec mon esprit. Et probablement que Pierre était là, entre ces gens-là, qui disaient, tais-toi, arrête de crier, ferme-le. C'est pas comme ce qu'il disait, mais il les faisait taire, là. Cet homme-là, il criait plus fort. Il y en a un qui était intéressé à lui, vraiment, de tout son cœur. C'était Jésus. Jésus s'arrête dans son chemin, puis il a dit aux gens qu'il criait après lui, appelez-les. Alors les gens qui criaient après lui, ils l'appelèrent. Ils appelèrent l'aveugle, verset 49, en lui disant, Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Quelle hypocrisie, hein? Il venait juste de crier après lui, puis après, il parle avec une douceur incroyable. Savez-vous pourquoi? Parce que le Seigneur le regardait. Oups, ne soyons pas gentils juste quand le Seigneur nous regarde. Soyons gentils en tout temps. Alors, il obéit la voix du Seigneur de lui dire, allez, allez le chercher. Amène-le ici. Alors, ils sont allés, ils ont dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, il se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Pensez-vous pas que le Seigneur le savait? Mais oui, le Seigneur sait qu'est-ce qui se passe dans notre vie, mais il veut écouter de notre bouche. Il veut que nous le demandons. Il veut que nous parlons avec lui. On n'est pas des robots finalement. Pas vrai? On est des êtres humains créés à l'image et ressemblance de Dieu. Alors, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bien sûr, l'aveugle pouvait le dire parce qu'il parlait très bien. Il ne voyait pas, mais il parlait très bien. Il écoutait très bien. Alors, qu'est-ce qui est sorti de cet aveugle? Verset. Quel verset nous sommes? 52. Rabouni, dit l'aveugle. Rabouni, lui répondit. Que je recouvre la vue. Rabouni. Oh, que j'aime ces mots-là. Qu'est-ce que ça veut dire, Rabouni? Mon maître, mon Seigneur. Waouh! Mon maître, mon Seigneur. Est-ce que vous voulez parler comme ça au Seigneur? Dans vos prières? Mon maître, mon Seigneur. Ou simplement vous dites, Père Céleste, bénis ma toast, mon café, puis au nom de Jésus. Amen. C'est quoi votre prière? N'oubliez pas que cet aveugle s'est arrêté devant Jésus. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il l'a amené jusqu'à là, parce qu'il ne voyait rien. Puis tout en sentant la proximité de Jésus, il a dit, Rabboni, mon maître, mon Seigneur. Et je crois même, peut-être qu'il s'est penché un petit peu. Rabboni, Rabboni, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi il a dit pas juste ta foi t'a sauvé? Il a dit va, parce qu'il pouvait aller après. Il voyait très bien. Je ne sais pas, la Bible ne dit pas quelle était la réaction immédiate de cet aveugle en regardant son rabboni face à face. Oh, que ça doit être beau. J'imagine son visage rayonner de joie. Rabboni, mon maître, mon Seigneur. Va, ta foi t'a sauvé, le dit le Seigneur, après de lui guérir sa cité. Aussitôt, dit la parole de Dieu, pas après, ni avant, pas un jour après, pas un mois après, aussitôt. Aussitôt, il recouvra la vue et réveillez-vous, et suivez Jésus. Pas vrai? Il a suivi Jésus tout de suite. Il n'a pas hésité. Comment il pourrait lui laisser ça pour demain quand c'était là qu'il avait vu et qu'il avait eu une rencontre personnelle avec son rabboni? Frère bien-aimé, ce passage se rassemble à moi. Il se rassemble à vous. On n'était pas tous aveugles? On était tous aveugles. Spirituellement. C'est pour ça que le Seigneur l'a guéri, mais en même temps, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Il l'a guéri doublement. Il l'a guéri de sa cécité physique, il l'a guéri de sa cécité spirituelle. Et quand cela arrive dans la vie d'une personne, lui va. Va toujours auprès du Seigneur. Il devient son disciple. Cet homme-là est devenu un disciple du Seigneur parce qu'il dit, aussitôt il recouvra la vue et suivi Jésus dans le chemin. On était tous aveugles, mes bien-aimés. Personne ici peut se vanter et dire, je n'étais pas un aveugle. Personne ici suivait le Seigneur. Moi-même, je ne le suivais pas. Je me moquais de lui, de tout ce qui le suivait. J'étais méchant, là, parce que j'étais aveugle spirituellement. Parce que quelqu'un m'avait rendu aveugle. Regardez qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu. J'en ai des papiers en blanc ici, je ne sais pas pourquoi. OK. Frère bien-aimé, nous avons un ennemi qui travaille fort contre nous. Regardez ce que dit 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. C'est dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 4. Il y a une déclaration ici très contondante à mon goût. 2 Corinthiens 4 et verset 3, regardons ensemble, il dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé, on ne le voit pas. Pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle, qu'est-ce qu'il a fait? A aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voit pas briller les splendeurs de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Dans ces conditions-là, on était, vous et moi, avant que le Seigneur passe devant notre vie. Les dieux de ce siècle, Satan, avait aveuglé l'intelligence, afin que nous ne voyions pas briller les splendeurs de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais Jésus passe par là. Il nous appelle vers lui. Et qu'est-ce qui arrive? Verset 6. La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Maintenant, nous sommes dans la lumière parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui marchera avec moi ne marchera point dans les ténèbres. Mais quelle chose importante le Seigneur déclare ici. Il a dit aussi, une lumière ne l'allume pas pour la mettre en dessous d'une table, mais pour la mettre sous la table et pour qu'éclaire tout autour. Ça, c'est nous. Où est ta lumière aujourd'hui? Est-ce que tu brilles autour de toi? Regardez cet homme-là, il a commencé à briller avant même de recevoir la lumière. Jésus, fils de David. Quelle déclaration. Double déclaration. Jésus, fils de David, autorité. Rabboni, Seigneur, Maître. En aucune de ces opportunités, le Seigneur ne l'a pas dit, dis-moi pas comme ça. Dis-moi pas Jésus, dis-moi pas fils de David, dis-moi pas Rabboni. Dans tous et chacune des déclarations que cet homme-là a proclamées dans son désespoir, le Seigneur l'a fait dire bien haut, parce que c'était lui le Rabboni, parce que c'était lui le fils de David, et parce que c'était lui bien Jésus, celui qui venait s'ouvrir et mettre de la lumière ce qui était dans les ténèbres. Amen. Mais où est ta lumière aujourd'hui? Est-ce que tu as une lumière cachée en dessous d'une table? Ou toute lumière qui est placée bien à la vue pour que puisse éclairer toute la place. Où sont les lumières aujourd'hui? Regardez les lumières. Elles ne sont pas sur le plancher. Elles sont placées bien haut pour éclairer la salle. Amen. C'est comme ça qu'on doit être nous autres. Nous devons être à la place où Dieu veut qu'on soit pour éclairer tout autour en témoignage de cette grâce qu'on a reçue d'être ensemble avec Christ. Les lumières du monde. Le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde, mais un petit peu plus tard, dans la parole, a dit, vous êtes la lumière du monde. Merci Seigneur qu'on est la lumière du monde. Amen. Procure que ta vie éclate la lumière partout où ce qui passe. Qu'il laisse un bon témoignage du bienfait de la lumière. C'est vraiment un bienfait la lumière, n'est-ce pas? Mais on voit ici un rendez-vous divin. Un rendez-vous divin. Un rendez-vous entre la foi d'un homme qui criait, pour un besoin physique, il reçoit non seulement une réponse à son besoin physique, mais aussi une réponse à son besoin spirituel. N'est-ce pas? On voit ici un rendez-vous entre la foi et la miséricorde de Dieu. Amen. C'est ça qui est arrivé dans notre vie quand on est venu au pied du Seigneur. Quand il a dit, Seigneur, je suis un pécheur. Je suis méchant. Je ne mérite pas d'être ton enfant. Mais à cause de ta grâce et ta miséricorde, viens et guéris-moi. Guéris mes maladies qu'il y a en moi. Cette maladie de péché, cet aveuglement spirituel. Viens dans ma vie. C'est comme ça que vous l'avez dit à Jésus quand vous êtes venu à ses pieds. Parce que si vous ne l'avez pas dit comme ça, vous n'avez jamais venu au pied du Seigneur. Soyons clairs et honnêtes. Frère bien-aimé, et s'il vous plaît, ne pensez jamais que vous avez accepté Jésus-Christ. Ne le croyez pas ça. Satan, il veut nous vendre des choses free, gratuites. Les gens disent, j'ai accepté le Seigneur moi. Ah, quand j'ai accepté le Seigneur là. Oh, quand j'ai commencé à suivre le Seigneur. C'est pas ça. C'est Jésus qui s'approchait de nous. C'est Dieu qui a eu miséricorde de nous. C'est Dieu qui est venu du ciel vers nous, pécheurs. Et par son esprit, a attiré nos pensées et a attiré notre vie auprès de lui pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas nous. S'il vous plaît, arrêtez de péter vos bretelles et dire, j'accepte le Seigneur là. Hein? Vous allez péter les bretelles jusqu'au moment de les casser. Dieu ne croira jamais ça. Frère bien-aimé, c'est le Seigneur qui s'est approché de nous. Cet aveugle, il nous le démontre. Est-ce que lui est allé tout seul vers Jésus? Non, il a fallu l'amener vers Jésus, parce que Jésus l'attendait. Amen. Et quand Jésus l'attendait, là a eu une rencontre. Jésus a eu pitié de nous. Dans notre course folle dans ce monde, le Seigneur s'est arrêté devant nous, puis il a dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et moi je te donnerai du repos. C'était comme ça ou pas? C'est comme ça. C'est le Seigneur qui est venu à nous. Merci Seigneur pour ta miséricorde et ta bonté. Tout ce que tu as vu en nous, c'était un pécheur en besoin d'être guéri. Mais bien aimé, cet homme-là, Jésus, et je veux dire Bartimée, n'a pas perdu son opportunité. Et quelle opportunité? Jésus s'en allait vers la croix à Jérusalem. Il ne reviendrait plus jamais par ce chemin. C'était là ou jamais. Le Seigneur nous donne des opportunités ou c'est là ou jamais. Frère bien-aimé, tu as joui de l'opportunité du Seigneur? Tu as joui de l'opportunité que Dieu te donne? Parfois, Dieu nous appelle à différentes choses dans notre vie chrétienne. Il nous appelle à la repentance parce que lui attend que nous soyons devant lui pour nous repentir. Lui nous attend constamment à que nous prions devant lui, à que nous le louons, à que nous persévérons. Mais le Seigneur est toujours là pour nous soutenir dans sa grâce et dans sa bonté. C'était l'opportunité de Bartimée. Nous avons eux aussi notre opportunité. Les gens aussi qui sont au bord du chemin, partout, il y a des gémissements, des cris, des désespoirs, parce qu'ils n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Mais nous l'avons. Qu'est-ce que nous faisons avec cela? Est-ce que nous faisons comme les disciples? Tais-toi! Tu cries trop fort, là. Dérange-moi pas. Ou nous faisons comme le Seigneur a dit, allez les chercher, amène-les auprès de moi. Alors, c'est quoi notre évangélisation? Allez, prends courage, mon ami. Lève-toi, ne reste pas là. Le Seigneur t'appelle. C'est ça, l'écrit de notre évangélisation. Pas vrai? Si nous ne faisons pas ça, nous ne faisons rien. C'est vrai que Dieu est un Dieu de miracles, on le voit ici à travers Jésus-Christ. Mais lui nous donne une tâche à accomplir une fois qu'on le connaît. Puis on ne doit pas passer à côté de cela. Jamais. Autre chose qu'on regarde dans ce passage, c'est que Dieu, par Jésus-Christ et par cet événement, cette petite portion, le donne aussi l'opportunité aux disciples de bien comprendre la tâche qu'ils ont à accomplir. On n'est pas là pour faire taire le monde. On n'est pas là pour les dire, tais-toi, voyons donc, tu déranges le maître. Mais bien des fois, on ne le dit pas comme ça. On lui dit, tais-toi, tu me déranges. Ferme-le, je n'ai pas le temps pour toi. Là. Savez-vous quelle est la meilleure crainte de l'évangélisation chez les gens? Si vous voulez me lapider en sortant d'ici, je suis prêt. Je vais vous le dire. La plus grande crainte que les gens ont d'évangéliser quelqu'un, c'est parce qu'ils vont s'investir dans l'autre personne. Puis ils ne sont pas prêts à donner du temps pour l'autre personne. Et ces personnes-là, ils vont me déranger dans ma vie. Il va m'appeler à chaque instant, il va lire la parole, il ne connaîtra rien, il va m'appeler, qu'est-ce que cela ça veut dire, il va me téléphoner, il va cogner à ma porte, il va vouloir qu'il lui donne du temps. Qu'est-ce qu'il pense que je suis? Je ne suis pas Jésus, moi. Les gens n'évangélisent pas parce qu'ils ont peur de s'investir dans les gens. Ah, j'ai connu le Seigneur, j'ai mon petit auréole, j'ai fait mon culte personnel tous les matins, puis merci Seigneur que je suis un chrétien, je ne suis pas comme les autres. Voyons donc, ça n'existe pas ce christianisme-là. Nous devons faire comme le Seigneur a dit. Allez, allez, va les chercher. Qu'est-ce qu'on doit dire nous autres? Prends courage. Lève-toi, le Seigneur t'appelle. Pas vrai? Quelle opportunité pour les disciples qui n'avaient pas encore compris cela. Et quelle leçon pour les gens qui l'entouraient. Il dit ici qu'il y avait une foule qui les pressait autour de lui à Jésus et c'est fou d'écouter tout ce que le Seigneur disait à Bartimée. Puis, quand il envoyait les disciples chercher à Bartimée, et savez-vous quoi? Cette foule était là comme un témoignage. Il y a un grand témoignage. Il y a un grand nombre de témoins autour de nous, partout dans la ville. Pas vrai? Ah, il va faire telle chose là. On pense qu'on est tout seul dans la ville, hein? Puis tout d'un coup, personne dit, tu es chrétien, toi, je t'ai vu rentrer à l'église, là. Oh oui, je suis chrétien. Oui. Mais toi, tu devrais pas être là, les chrétiens, ils rentrent pas là, là. Oui, mais tu sais, on est faible. Hein. Il y a toujours une excuse pour chaque chose. Frère bien-aimé, cet homme qui venait d'être guéri, qui venait de recevoir la grâce et la miséricorde de Dieu, il y avait des témoins autour de lui. Regardez ce qu'il dit, Hébreux 12. Hébreux 12. Très intéressant cet Hébreux 12. Il est le premier verset. La parole dit ceci, en Hébreux 12, verset 1. Nous, donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui est devant nous ou dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur qui? Sur Jésus qui a suscité la foi et l'amène à la perfection. Merveilleux! Nous pouvons être de bons témoins de ce que Dieu a fait dans nos vies. En regardant les yeux fixés sur Jésus, pas dans notre nombril. Pas en regardant, oh, mais les frères, là, ils persévèrent pas gros, là. Pourquoi est-ce qu'ils devraient m'exiger plus que ça, là? N'ayez jamais comme référence vos frères et sœurs. Ayez comme référence Jésus, celui qui ne manque pas. Et vous allez avoir un exploit merveilleux dans votre vie chrétienne. En regardant Jésus. En regardant lui seul, comme l'aveugle Bartimée l'a fait. Il a regardé à son rabouni, à son maître. Et qu'est-ce qui était le résultat? Il a suivi par après, tout de suite. Parce que son référence n'était pas chez ces gens-là qui les faisaient taire. Oui, mais comment est-ce qu'il va te suivre, Seigneur, si tes disciples, ils me font taire? Si, quand j'étais malade, quand j'étais aveugle, ils me disaient, chut, tais-toi, là. Non, lui regardait son rabboni, son maître. Puis il voulait un témoignage pour ceux qui l'entouraient, pour ceux qui étaient autour de lui. Un témoignage utile pour la gloire de Christ. Frère bien-aimé, regardez qu'est-ce que dit Luc, chapitre 18, 43. Puis on commence à finir avec ça. Luc. 18:43. Verset 18, 43. Regardez bien. Il dit ceci. C'est le même passage de Bartimée, mais regardez ce qu'il dit vers la fin, au verset 43. Il dit, à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé en conséquence de ça? Tous les peuples, voyant cela, louent Dieu. Ce n'est pas important notre témoignage? Croyez-vous que c'est important le témoignage? Mais le bon témoignage, pas le mauvais témoignage. Si vous donnez un mauvais témoignage, demandez pardon au Seigneur, puis recommencez à zéro encore. Le Seigneur est prêt à nous laver de toutes nos iniquités et à nous donner un cœur nouveau, dit la parole. Soyez un bon témoignage pour Christ. Et si jamais autour de vous, il y a quelqu'un qui a besoin du Seigneur, il y a quelqu'un qui cherche s'approcher de Jésus, ne le faites pas taire. Investissez-vous dans la vie de cette personne. Frère bien-aimé, Dieu témoigne que chez nous, c'était toujours une porte ouverte pour tout celui qui voulait s'approcher de Jésus. Je me réjouis dans le Seigneur que ce travail-là n'était jamais vain. On voyait les fruits, à court terme, à moyen terme et à long terme. Frère bien-aimé, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Investissez votre vie dans la vie de quelqu'un, tel qu'il l'a fait le Seigneur, tel qu'il l'ont fait les disciples par après, quand ils ont tout compris. Et ne croyez jamais que le Seigneur, c'est un Seigneur de spectacle. Hein? La foule suivait Jésus parce que quelle guérison va faire maintenant là? Ah mais, Dieu s'est pourvu d'un aveugle. Mais ce n'était pas la raison d'être de Jésus sur la terre, de faire des spectacles de guérison. Jamais. C'était pour démontrer que lui était Dieu sur la terre et qu'il pouvait tout faire pour nous, même nous guérir. Amen. Alors, regardons ce Jésus comme le Jésus qui vient guérir la cécité spirituelle et que quand lui veut, il guérisse aussi notre être physique. Mais surtout, prenons courage et faisons la job que nous correspond faire. Soyons de bons témoins de ce que Jésus a fait pour nous. Ne gardons jamais cela juste pour nous. Mais allons de l'avant. Partageons ce témoignage avec d'autres et soyons une lumière bien placée où ce que tout le monde puisse s'en bénéficier. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Priez pour Hélène, priez pour moi, priez pour l'église de Saint-Philippe là-bas au Chili, aux extrémités de la terre. Priez de cette extrémité de la terre, parce que vous êtes dans l'extrémité nord. Nous sommes dans l'extrémité sud. Alors, là où nous soyons, Jésus est tout-puissant, Dieu tout-puissant, son esprit est présent et sa parole, c'est vrai. Amen. Prions le Seigneur, Dieu éternel, bénis cette parole et que soit une parole édifiante pour nos cœurs et que ce matin on puisse prendre des défis dans nos vies afin d'être des bons disciples pour ta gloire et que rien ne puisse venir cacher au paquet et interdire la lumière que nous voulons répandre à cause que Jésus-Christ a fait une œuvre merveilleuse dans nos vies. Que ton nom soit béni. Merci de nous sortir des ténèbres spirituelles, de la cécité spirituelle, de l'œuvre que Satan avait faite dans notre vie, afin que toi, tu puisses faire un miracle le plus sublime, le plus beau, le plus merveilleux que notre vie puisse avoir vu, celle de naître de nouveau. Que ton nom soit glorifié, glorifie-toi à travers cette église ici à Longueuil, et glorifie-toi, Seigneur, dans l'autre extrémité de la terre, à travers l'église de Saint-Philippe. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus, ton Fils. Amen.